Bonjour et bienvenue sur les ondes de Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac dans cette édition du magazine de la rédaction. Aujourd'hui, on va poser des questions environnementales, territoriales, de comment on s'organise pour vivre ensemble au présent et à l'avenir, et quel impact ça a pour nous et autour de nous. Je suis entourée de trois personnes, en plus de Rémi à la technique, trois personnes du collectif dénommé Stop Enrobé 81. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors peut-être que déjà on pourrait faire un petit tour de table pour que vous vous présentiez et puis que vous puissiez un peu après situer votre point de vue sur ce dont on va parler. Aline.
Alors du coup je m'appelle Aline Coutarel, je fais partie du GEC de la ferme des Azous. On est installé à 4 depuis 2 ans, presque 2 ans, en polyculture élevage. Et du coup, on est situé à peu près à 1,5 km du projet de centrale d'enrobée dont on va vous parler aujourd'hui. Voilà, et donc du coup, le GAEC en agriculture biologique et nature et progrès, dès qu'on a appris en fait la création de ce projet-là, on s'est de suite mobilisé. Et sinon, par ailleurs, je suis aussi conseillère municipale sur la commune. Voilà.
Merci. Vous êtes Vanessa ?
Oui, Vanessa. Donc moi, j'habite un petit hameau à quelques kilomètres aussi, donc du projet de centrale. Et je suis chargée de recherche au CNRS et plus particulièrement à l'Institut National Écologie Environnement du CNRS. Donc j'ai aussi un petit peu ce regard-là par rapport à ce projet.
Très bien. Quant à vous, Noël ?
Alors moi, j'habite le village de Morodon-la-Bessonnier. Et je me sens très concerné par ceci, ayant travaillé toute ma vie dans l'industrie.
D'accord.
Dans beaucoup de choses qui ont plus ou moins sali le monde.
D'accord.
Donc aujourd'hui, c'est un peu mon repenti et j'espère pouvoir intervenir.
Mettre vos compétences, en tout cas, voilà, au service de cette analyse. Donc vous avez évoqué une centrale d'enrobée. Aline, c'est quoi une centrale d'enrobée ?
Alors l'enrobé, c'est du coup ce qui constitue la surface supérieure des routes. Voilà, donc on roule sur de l'enrobé. Et donc cet enrobé, il est constitué à partir d'huile bitumineuse, donc notamment de pétrole, et de granulats, qui viennent des roches. Voilà. Pour faire en synthèse, après c'est plus Noël le technicien du groupe, mais voilà, donc c'est en tout cas c'est pour créer ça. Et donc aujourd'hui il y a déjà une centrale actuelle qui s'appelle Tarn-en-Robé, qui est une usine très vieillissante, hein, et qui est proche du Dadou, donc de la rivière, sur un espace assez clos, on va dire. Et donc le projet là de Tarn-en-Robé, c'est de créer une nouvelle centrale bien plus importante, bien plus grosse, donc sur des terres agricoles, et aussi pour retraiter ce qu'on appelle le fréza, qui est du coup les déchets des routes, ce qui se faisait un peu en minorité aujourd'hui. Voilà, donc l'idée, c'est une giga, méga usine d'enrobée à proximité des carrières, puisque du coup, on est collé aux carrières actuelles.
Donc le projet, il se situe sur la commune de Montredon-la-Bessonnier ?
Tout à fait, exactement à l'entrée du parc régional, en plus. Vous passez juste le panneau, vous tomberez sur la centrale, ce qui sera magnifique comme publicité. Et sur la commune de Montredon-la-Bessonnier, à côté des carrières qui leur fournissent le granulat.
D'accord, donc en fait, on pioche il y a des machines qui extraient cette matière depuis la terre, depuis la roche.
Voilà, c'est de la roche, c'est une roche dure, et un peu à base de granit, ce qui fait que c'est une roche vraiment très très dure, et qui va de plus en plus être exploitée dans le bâtiment, car le problème, c'est qu'avant, il faut travailler avec du fréza calcaire, qui, comme vous voyez, comme à Marseille ou comme ça, a posé des problèmes avec le vieillissement. Le calcaire, c'est plus ou moins. Donc, ils recherchent un fréza très dur.
D'accord. Aline, c'est quoi la position de votre collectif Stop Enrobé 81 ?
Bon, la position, elle est assez simple. Hein. C'est qu'on ne veut pas de cette centrale, de cette nouvelle centrale sur ces terres, avec une multiplication. Voilà, du coup, c'est plutôt pour une centrale à échelle départementale.
Enfin, vous en voulez pas du tout, c'est-à-dire est-ce qu'il faudrait, est-ce que vous êtes au moins d'accord pour que celle qui existe perdure ou
Bah, pas en l'état parce qu'elle est très problématique. Il y a des grosses émanations qui globalement intoxiquent tous les gens autour. Hein. On a des membres du collectif qui sont malades du fait de la centrale actuelle. On a des belles photos de pollution en été là, magnifiques. Voilà, donc non, c'est une usine qui est très très vieillissante, celle qui est actuelle et qui ne nous convient pas. L'autre ne nous convient pas. Après, c'est aussi plus globalement quelle dimension on pense à faire des routes à tout prix, tout bituminer et tout. Enfin voilà, c'est aussi, on se bat aussi plus largement aussi sur une question un peu déontologique générale de dire c'est quel avenir on veut aussi pour nos territoires, quoi.
Vanessa, Léa, j'imagine que, au vu de vos compétences, vous n'avez pas pu vous empêcher d'argumenter un peu, de faire des recherches, d'analyser l'impact d'une telle centrale.
Oui, les impacts.
Les impacts.
Oui, puis on a travaillé aussi beaucoup en lien avec la Fédération pour les alternatives au bitume pétrolier. Qui est donc une fédération d'associations qui aide aussi différents collectifs qui font face à ce type de problème, parce qu'il faut savoir qu'il y a de plus en plus en fait de centrales enrobées en France, et qu'il y a aussi de plus en plus de collectifs qui se montent contre ce type de centrales. Ça, c'est un phénomène un peu nouveau, hein, puisque avant il y avait beaucoup moins de contestations, on va dire, mais il y a peut-être une prise de conscience qui est en train de se faire au niveau des territoires. Voilà, donc cette fédération, en fait, elle a une vision un petit peu globale, hein, des problèmes que ça peut poser, et puis de ce qui se passe donc aussi à l'échelle nationale. Donc, en termes d'impact, on parlait des fraisas, donc issus du rabotage des routes, comme le disait Aline. Ces fraisas, en fait, doivent être traités dans des centrales qui sont plus modernes. Les anciennes ne pouvaient pas le faire. Ce sont les nouvelles centrales, en fait, qui sont en capacité de le faire. Donc, ces centrales, elles nous sont présentées, j'allais dire, avec un discours empreint de greenwashing, puisqu'en fait, c'est du recyclage, évidemment, le rabotage des anciennes routes. En réalité, d'un point de vue environnemental, ça pose problème, puisque les anciennes routes contiennent de l'amiante, des vieux morceaux de pneus, etc. C'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est que pour traiter de ces fraisas, pour les liquéfier, il faut les monter à plus haute température. Et quand on monte à plus haute température, ça joue sur la dispersion des particules et sur leur toxicité.
Ce rabotage, c'est qu'on gratte en fait l'ancienne route ?
Tout à fait, exactement.
Ok.
Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, ça va s'accompagner d'une augmentation du nombre de camions, puisque les camions sont un vrai problème de pollution. Mais là, on va en rajouter du trafic, justement parce qu'il faut amener ces fraisas sur place. Donc ça, c'est un deuxième point.
Ils partiront les camions de Montredon-la-Bessonnier jusqu'à la France entière, jusqu'à l'Occitanie?
Alors, honnêtement, le projet, pour l'instant, tel qu'il nous a été présenté, il reste un peu flou. Ils ont parlé effectivement des routes départementales, mais en réalité, on n'a pas une vision très claire de voilà. Ce point de vue-là.
Disons que le Frisa, nous ne savons pas d'où c'est qu'il va venir. Exactement.
D'accord.
Donc, il nous raconte que chaque camion qui portera du Frisa repartira avec du bitume.
D'accord.
Il ne fera pas un voyage à vide.
C'est donnant-donnant.
Donnant-donnant. Mais le petit souci, c'est que la machine qui est actuellement en place fait 160 tonnes à l'heure.
D'accord.
De bitume.
Oui.
Et aujourd'hui, ils veulent passer à 200 tonnes l'heure de bitume. Les machines qui existent aujourd'hui ne font pas pile 200 tonnes. Ils ont juste à demander à la préfecture s'ils peuvent produire plus. Donc on peut se retrouver à 300 tonnes de l'heure. Et sachant que chaque camion porte en moyenne, et soit ils ont des camions de 18 tonnes, soit des camions de 22 tonnes, donc de 24 tonnes, donc j'ai fait une moyenne de 22 tonnes à peu près, chaque camion va recirculer. Donc sur une heure, enfin par jour, ça fait, moi j'ai fait un calcul, pour ne pas être trop méchant avec eux, puisque soit disant la production n'est pas linéaire, de 6 heures de travail. Donc ça fait 200 fois 6, ça me fait 1200 tonnes de production par jour de bitume. Multiplié par le nombre de véhicules, et encore j'aurais déduit un mois de non-travail, 22 jours, ça fait plus que 232 jours de travail, 10 jours de maintenance, ça fait plus que 220 jours de travail, j'ai été gentil avec eux, et on arrive quand même à un total de 320 000 tonnes de production.
D'accord.
Par an.
Donc il circulera sur les routes...
Et tout ça, vous le divisez par 22, le poids que peut porter chaque camion, et à un seul voyage. Et vous verrez, c'est monstrueux, quoi. Vous arrivez à exactement 11 636 camions de plus par an.
Effectivement, c'est beaucoup plus. D'accord.
De plus, hein, de ce que produit l'usine actuellement.
Hein. On entend. Ça, c'est presque un peu difficile à se représenter. Il faut vraiment bien se concentrer, mais on sent que c'est beaucoup.
Oui, et donc pour continuer là sur ce qu'on disait en termes de pollution, donc on n'a pas parlé encore des substances en fait qui sont rejetées, qu'on appelle les HAP, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui en fait constituent des substances qui sont cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Voilà.
Donc ça, c'est le déchet de quand on produit du bitume, en fait, il y a ce déchet-là.
Ça fait partie des émanations.
Ah, des émanations. Exactement. Dans l'air.
Tout à fait, d'accord. Exactement. Qui finissent de toute façon par retomber sur Terre, qui finissent par intégrer nos nappes phréatiques, nos cours d'eau, etc., etc., évidemment. Donc là, il y a des calculs qui ont été faits ben, justement par la FAB, dont je parlais tout à l'heure, hein, la fédération dont je parlais tout à l'heure, qui est qu'au bas mot, pour une centrale, on va dire, moyenne, de capacité moyenne, on peut estimer qu'il y a 200 kg de rejets physiques par jour sur 20 km alentour. Ce sont des rejets qui sont invisibles, mais qui sont cumulatifs. En plus de ça, pour la plupart d'entre eux, les HAP résistent au processus naturel hein, de dégradation et donc persiste dans l'environnement pendant plusieurs années. C'est pas quelque chose qui s'en va au bout de 6 mois. Et il y a eu 2 travaux, 2 thèses en fait, qui ont concerné un petit peu l'étude de ces HAP sur l'environnement, plus particulièrement dans les milieux aquatiques et d'autre part sur les prairies, qui montrent donc d'une part, pour le premier, hein, qu'il y a des effets absolument dramatiques sur les poissons. En termes de modification de gènes, donc ça joue sur le développement des poissons, ça suscite des comportements léthargiques et ça atteint leur performance en fait après de nage et donc ça les handicape pour le processus d'alimentation. Ça favorise aussi donc l'apparition de tumeurs cancéreuses, etc.
Sur les poissons.
Sur l'hamster aussi, il y a des études qui ont été faites.
Donc potentiellement sur les humains.
Tout à fait. Je vais y venir après.
Ah, ok.
Ça joue aussi sur le fonctionnement d'une prairie, puisqu'en fait, ça inhibe en fait la croissance des végétaux. Donc là, il y a des études qui ont été faites sur les trèfles et sur les raygrass, donc qui sont en fait des plantes fourragères, évidemment, qui sont broutées par les ovins, par les bovins. Or, le projet de la centrale concerne des terres qui sont actuellement en prairie. Voilà, et on sait que ça passe, que les constituants, donc les HAP, se retrouvent dans le lait et dans la viande que nous pouvons consommer, quoi.
D'accord. Donc effectivement, il y a une bonne liste d'impacts au pluriel.
Et sur la santé, il y a des questions qui se posent de manière très sérieuse, justement, entre le lien de fonctionnement de ces centrales et des cancers, et notamment des cancers pédiatriques. Par exemple, si on regarde ce qui se passe dans la ville de Saint-Rogatien, en Charente-Maritime, où il y a effectivement une concentration de cancers pédiatriques. Donc là, c'est toujours très très long à démontrer, évidemment, ce genre de résultats. Mais il y a quand même de fortes suspicions, en fait, qui sont clairement affichées depuis 2013, en fait.
D'accord. Donc en fait, cette centrale-là, elle est censée être sur des terres agricoles. Des terres agricoles, et est-ce que... C'est officiel que ça va se passer comme ça? Elles ont été attribuées par la SAFER?
Oui. Donc la ferme des Azous faisant partie du collectif, il a été proposé que du coup on puisse faire la préemption, donc le principe de préemption avec la SAFER. Donc pour ceux qui connaissent pas la SAFER, mais du coup c'est l'organe de régulation des terres agricoles, donc qui est nommé par l'État pour prioriser le monde agricole et le bio, les jeunes installés face à toutes les autres choses. Donc normalement c'est un truc de sauvegarde, on va dire, de l'agriculture. Et donc quand il y a une vente, on peut tout le monde, enfin tous les paysans du coin, on va dire, peuvent préempter, donc dire à la SAFER, moi aussi je suis intéressée. Et du coup c'est la SAFER qui est censée faire un arbitrage en fonction de critères. Donc nous, comme on est vraiment juste à côté, on a préempté les terres, donc la ferme des Azous. Donc ça a déjà été très compliqué de préempter parce que c'était pendant les vacances et vraiment, vraiment il a fallu que je menace en disant que je vais venir au bureau tant que si je n'ai pas reçu mon papier parce que le délai était le 22 août et en fait je n'avais toujours pas de réponse comme quoi ma demande avait bien été prise en compte, sauf que passé ce délai, bah, il pouvait dire que je ne sais pas quoi, mais en tout cas que la demande n'avait pas pu être prise en compte. Et puis après, donc du coup, il y a bien eu préemption, donc le dossier, enfin voilà, le dossier a bien été enregistré par la SAFER. Et du coup, le 28 septembre, donc il y avait une commission SAFER, il y a le département, la région, le parc, les bois, enfin voilà, il y a plein
et les élus représentant la profession.
Voilà, tous les syndicats, Confédération paysanne, FNSEA, JIR, tout ça. Et du coup, à cette réunion, notre préemption à la majorité a été refusée. Et c'est très questionnant parce que, c'est-à-dire qu'on correspondait à tous les critères de priorisation agricole. C'est-à-dire, là, c'est une ferme contre de l'industrie, c'est du bio, parce qu'ils ont une obligation d'augmenter la superficie en bio, c'est des jeunes installés. Et puis, il faut savoir que, du coup, nous, dans le secteur, il y a un seuil de viabilité qui est de 36 hectares par personne. Et nous, sur la ferme, on est à 17,5. Donc, c'est-à-dire qu'on est bien en dessous de ce seuil on est dans le seuil de vulnérabilité et donc on aurait dû être encore plus prioritaire. Enfin bon, voilà, il y a plein de choses qui fait que normalement on cochait toutes les cases du travail de la SAFER et que par des biais politiques, hein, bien évidemment, la préemption a été refusée. Voilà. Et donc ça n'est suivi notamment une action avec la Confédération paysanne puisque la SAFER ne pose pas problème que sur ce dossier-là, malheureusement.
On est ensemble dans le magazine de la rédaction sur Air d'Autan et Air d'Autan Gaillac avec le collectif Stop Enrobé 81. Donc on a entendu un peu le projet, on a entendu notamment ses nuisances en termes d'impact, une étonnante répartition donc des terres à l'octroi plutôt à cette centrale, à cette entreprise. Comment votre collectif à vous, il s'est fédéré, comment il est né en fait, comment ça s'est organisé?
Ça s'est organisé tout simplement, ma femme rentrant du conseil municipal, car elle est conseillère elle aussi, m'annonce qu'il allait avoir un rond-point en construction sur une petite route. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Puis en grattant, je connaissais l'ancien propriétaire de ces terrains, et il m'avoue qu'il y aurait un déménagement de la centrale à bitume. Donc je suis parti le lundi 10 janvier 2022, aller voir le maire de notre village et qui m'a tenu comme discours qu'il n'était au courant de rien. Bon, c'est vrai qu'on fait un rond-point en pleine campagne pour rien, en principe. C'est d'une logique incroyable. Après, bon, oui, il a réussi à reconnaître qu'il y aurait le déménagement de la centrale bitume, mais vu que c'est une centrale existante et ça ne va rien nous changer à nous. Si, malheureusement, ça va nous changer à nous. Hein, c'est une route principale qui nous amène à Réalmont, depuis notre village, qui va être embouteillée par des camions qui ne vont pas arrêter de monter et descendre d'un côté ou de l'autre, parce qu'il faut bien comprendre qu'il va y avoir cette centrale à bitume, mais il va y avoir le dépôt du bitume qui sera là. Et il va y avoir aussi des réserves à bitume qui seront à cet endroit-là. Donc il y aura une circulation et c'est on descend de Moreau dans la Bessonnière pour aller à Réalmont par là. Et les grandes surfaces qu'on a, eh bien, c'est Réalmont. C'est pareil. Les médecins, bon, on a de la chance, on va en avoir un qui est arrivé, mais les médecins, eh bien, il faut aller à Réalmont.
Donc quand vous avez appris qu'il y aurait ce rond-point avec ce projet, c'est vous qui avez lancé un appel à regroupement?
Voilà, ma femme connaissait du monde, donc petit à petit, on s'est regroupé autour d'une table et puis cherché. Puis petit à petit, ben, le groupe a grandi. Puis aujourd'hui, ben, on est assez nombreux.
Aujourd'hui, du coup, on est à peu près une vingtaine de membres actifs et on est plus de 130 membres sympathisants voilà, qui nous soutiennent.
Vous avez l'air d'être devenu calé, en tout cas, en la matière du bitume, de sa fabrication et de ses pollutions.
Il a bien fallu, hein, s'y est collé.
Et est-ce que vous avez pu échanger avec des élus? Est-ce qu'il y a eu des réunions publiques pour pouvoir croiser les points de vue et mettre du dialogue? Comment ça se passe à cet endroit-là?
On a eu deux réunions avec... Enfin, il y a eu plusieurs réunions, on va dire, en petits groupes.
En petits groupes.
De collectifs, voilà, c'est ça, de membres du collectif. Et puis après, il y a eu deux grosses réunions, relativement récemment organisées, donc une au mois de décembre, qui était... donc, qui s'est déroulée aussi avec les porteurs de projets, donc le consortium Tarn-Enrobé, les élus et effectivement le collectif.
Peut-être juste pour préciser Tarn-Enrobé, parce que je pense que c'est important de le dire, en fait ça fait partie de EFAGE,
Spi-Batignol
et Eurovia. Voilà, donc
c'est un consortium
international. Ça fait très local d'appeler ça Tarn-Enrobé, mais en fait.
Il semblerait qu'il y ait d'autres petits groupes qui soient autour. On est en train de rechercher l'information. On a découvert ça il n'y a pas très longtemps. Il y a d'autres groupes qui sont autour.
D'accord.
Voilà, pardon, vas-y, Vanessa.
Voilà, et donc cette réunion, en fait, avait pour objectif de nous faire connaître un petit peu mieux le projet en question. Objectif pas tout à fait rempli, puisqu'en fait, on est sorti de la réunion, il restait encore beaucoup de flou et de zones d'imprécision concernant ce projet-là. Donc ça, c'était au mois de décembre. Et puis plus récemment, le 12 janvier, le collectif a rencontré 8 élus. De la communauté de communes, là cette fois-ci sans les porteurs de projets. Donc c'est des réunions qui ont été importantes, mais je dirais surtout pour qu'on puisse se rendre compte de la manière dont les élus gèrent ou ne gèrent pas le dossier, c'est-à-dire que on se rend bien compte qu'ils ont quelques difficultés à s'approprier ce dossier. Ils ont été saisis par Tarn-Enrobé pour ce projet, ils se sont de ce qu'ils ont pu dire eux-mêmes lors de cette réunion, pas tout à fait, enfin pas vraiment posé de questions, puisqu'il y avait déjà une centrale et pour eux c'était une simple délocalisation, on va dire, un simple déménagement de la centrale. Alors qu'en fait, comme le disait Aline, il y a un redimensionnement qui est derrière, il va y avoir aussi de plus en plus de fraisins et ça c'est d'autant plus polluant comme on l'a évoqué. Donc voilà, donc ce n'est pas un simple déménagement. Et donc on s'est rendu compte qu'ils avaient du mal à s'approprier ce dossier et que finalement le collectif qui partait à la recherche de tout un tas d'informations, alors chacun selon ses compétences, ses spécialités, ses envies, etc., on est allé chercher tout un tas d'informations qu'on a voulu porter à connaissance de ces élus pour les faire un petit peu réfléchir et pour qu'ils mettent vraiment le nez dans ce dossier. Ça reste très compliqué. Parce qu'en fait, en discutant avec eux, on se rend compte que les élus manquent de formation, en fait, hein, et notamment ont du mal à vraiment se rendre compte des enjeux actuels concernant le changement climatique. Or, c'est typiquement au sein des territoires et à cette échelle-là qu'on se pose les bonnes questions et qu'on doit faire les bons choix, surtout. Voilà. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, les élus n'en sont pas capables, tout simplement. Et ça va devenir très compliqué à l'avenir, puisque je pense que pour aborder ce type de problème, il faut avoir une pensée un petit peu systémique. C'est pas juste une centrale qu'on va mettre à un endroit, mais ça touche à tout. Ça touche aussi, comme l'évoquait Aline tout à l'heure, à notre mobilité. Est-ce qu'on veut faire de plus en plus de routes pour utiliser de plus en plus de voitures? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on doit continuer à artificialiser les sols, alors que les espaces de prairies jouent un jeu extrêmement important au niveau du captage du carbone, par exemple, aussi au niveau de la préservation de la biodiversité, puisque ce sont dans les prairies que l'on trouve la plus grande biodiversité. Est-ce qu'on veut continuer à aller dans ce sens-là ou pas? Et tout ce qu'on peut faire en local, ça joue au niveau global, mais ça joue aussi au niveau du climat, au niveau local. Je pense aux canicules que l'on commence déjà à vivre, mais qui vont se développer à l'avenir. Le fait de garder des espaces de prairies, c'est absolument fondamental pour limiter leur durée, leur impact, pareil pour le stockage de l'eau, etc.
Donc voilà, il nous reste juste une petite minute. On peut dire que vous allez mettre en place la suite de la lutte, j'imagine, qu'il va y avoir des actions à venir et qu'on peut peut-être s'informer via un site internet ou quelque chose.
Donc la suite de la lutte, c'est de continuer aussi le dialogue avec les élus, puisque du coup, un des enjeux principaux en ce moment, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal qui, si lui valide la création d'une zone artisanale, une zone industrielle, la centrale pourra s'implanter en toute légalité. Et après, du coup, c'est des actions notamment de sensibilisation et d'information aux populations. Donc, on va faire des réunions publiques sur le territoire. Et vous pouvez, du coup, nous suivre sur le site www.tarn-enrobé.fr.
Stop enrobé 81, hein, peut-être.
Merci. Donc, on peut nous suivre sur www.stopenrobé81.fr. Voilà, un tout nouveau site. Et aussi, on a une page Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Et on va aussi également organiser des manifestations, actions publiques. On a une cagnotte et une pétition. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir de cette manière-là. Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir relevé le défi de parler de tout ça en 25 minutes. Merci à Rémi, merci. À la technique.
Merci.
Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute. À très vite sur nos ondes.